Chapitre 2, suite. Il ne cessa point de donner des leçons de piano à Colette, mais il évita désormais les occasions qu'elle lui offrait de continuer leurs entretiens amicaux. Elle eut beau s'attrister, se piquer, jouer de ses petites roueries, il s'obstina. Ils se boudèrent. D'elle-même, elle finit par trouver des prétextes pour espacer les leçons, et il en trouva pour esquiver les invitations aux soirées des Stevens. Il en avait assez de la société parisienne. Il ne pouvait plus souffrir ce vide, cette oisiveté, cette impuissance morale, cette neurasthénie, cette hypercritique sans raison et sans but qui se dévore elle-même. Il se demandait comment un peuple peut vivre dans cette atmosphère stagnante d'art pour l'art et de plaisir pour le plaisir. Cependant, ce peuple vivait. Il avait été grand, il faisait encore assez bonne figure dans le monde. Pour qui le voyait de loin, il faisait illusion. Où pouvait-il puiser ses raisons de vivre? Il ne croyait à rien qu'au plaisir. Comme Christophe en était là de ses réflexions, il se heurta dans la rue à une foule hurlante de jeunes gens et de femmes qui traînaient une voiture où un vieux prêtre était assis, bénissant à droite et à gauche. Un peu plus loin, il vit des soldats français qui enfonçaient à coups de hache les portes d'une église, et que des messieurs décorés accueillaient à coups de chaise. Il s'aperçut que les Français croyaient pourtant à quelque chose, encore qu'il ne comprît pas à quoi. On lui expliqua que c'était l'État qui se séparait de l'église, après un siècle de vie commune, et que, comme elle ne voulait pas partir à bon gré, fort de son droit et de sa force, il la mettait à la porte. Christophe ne trouva point le procédé galant, mais il était si excédé du dilettantisme anarchique des artistes parisiens qu'il eut plaisir à rencontrer des gens qui étaient prêts à se faire casser la tête pour une cause, si inepte qu'elle fût. Il ne tarda pas à reconnaître qu'il y avait beaucoup de ces gens en France. Les journaux politiques se livraient des combats comme les héros d'Homère. Ils publiaient journellement des appels à la guerre civile. Il est vrai que cela se passait en paroles et que l'on en venait rarement au coup. Cependant, il ne manquait pas de naïfs pour mettre en action la morale que les autres écrivaient. On assistait alors à de curieux spectacles, des départements qui prétendaient se séparer de la France, des régiments qui désertaient, des préfectures brûlées, des percepteurs à cheval à la tête de compagnies de gendarmes, des paysans armés de faux faisant bouillir des chaudières pour défendre les églises, que des libres penseurs défonçaient au nom de la liberté, des rédempteurs populaires qui montaient dans les arbres pour parler aux provinces du vin, soulevées contre les provinces de l'alcool. Par-ci, par-là, ces millions d'hommes qui se montraient le poing, tout rouges d'avoir prié, finissaient tout de bon par se cogner. La République flattait le peuple, et puis elle le faisait sabrer. Le peuple, de son côté, cassait la tête à quelques enfants du peuple, officiers et soldats. Ainsi, chacun prouvait aux autres l'excellence de sa cause et de ses poings. Quand on regardait cela de loin, au travers des journaux, on se croyait revenu de plusieurs siècles en arrière. Christophe découvrait que la France, cette France sceptique, était un peuple fanatique. Mais il lui était impossible de savoir en quel sens. Pour ou contre la religion, pour ou contre la raison, pour ou contre la patrie, ils l'étaient dans tous les sens. Ils avaient l'air de l'être pour le plaisir de l'être. Il fut amené à en causer un soir avec un député socialiste qu'il rencontrait parfois dans le salon des Stevens. Bien qu'il lui eût déjà parlé, il ne se doutait point de la qualité de son interlocuteur. Jusque-là, il ne s'était entretenu que de musique. Il fut très étonné d'apprendre que cet homme du monde était un chef de parti violent. Achille Roussin était un bel homme, à la barbe blonde, au parler grasseyant, le teint fleuri, les manières cordiales, une certaine élégance avec un fond de vulgarité, des gestes de rustre qui lui échappaient de temps en temps, une façon de se faire les ongles en société, une habitude toute populaire de ne pouvoir parler à quelqu'un sans happer son habit, l'empoigner, lui palper le bras. Il était gros mangeur, gros buveur, viveur, rieur, les appétits d'un homme du peuple, qui se rue à la conquête du pouvoir. Habile à changer de façon, suivant l'interlocuteur, exubérant d'une façon raisonnée, sachant écouter, s'assimilant sur le champ tout ce qu'il entendait. Sympathique d'ailleurs, intelligent, s'intéressant à tout, par goût naturel, par goût acquis et par vanité. Honnête, dans la mesure où son intérêt ne lui commandait pas le contraire, et où il eût été dangereux de ne pas l'être. Il avait une assez jolie femme, grande, bien faite, solidement charpentée, la taille élégante, un peu étriquée dans de luxueuses toilettes, qui accusaient avec exagération les robustes rondeurs de son anatomie. Le visage encadré de cheveux noirs frisottants, les yeux grands, noirs et épais, le menton un peu en galoche, la figure grosse, d'aspect assez mignon toutefois, mais gâtée par les petites grimaces des yeux myopes, clignotants, et de la bouche en cul de poule. Elle avait une démarche factice, saccadée, comme certains oiseaux, et une façon de parler minaudière, mais beaucoup de bonne grâce et d'amabilité. Elle était de riche famille bourgeoise et commerçante, d'esprit libre et d'espèce vertueuse, attachée aux devoirs innombrables du monde, comme à une religion, sans parler de ce qu'elle s'imposait, de ses devoirs artistiques et sociaux, avoir un salon, répandre l'art dans les universités populaires, s'occuper d'œuvres philanthropiques ou de psychologie de l'enfance, sans chaleur de cœur, sans intérêt profond, par bonté naturelle, snobisme et pédantisme innocent de jeune femme instruite, qui semble réciter perpétuellement une leçon et qui met son amour-propre à ce qu'elle soit bien sue. Elle avait besoin de s'occuper, mais elle n'avait pas besoin de s'intéresser à tout ce dont elle s'occupait. Telle l'activité fébrile de ces femmes, qui ont toujours un tricot entre les doigts, et qui remue sans trêve les aiguilles, comme si le salut du monde était attaché à ce travail, dont elles n'ont même pas l'emploi. Et puis, il y avait chez elles, comme chez les tricoteuses, la petite vanité de l'honnête femme, qui fait, par son exemple, la leçon aux autres femmes. Le député avait pour elle un mépris affectueux. Il l'avait fort bien choisie, pour son plaisir et pour sa tranquillité. Elle était belle, il en jouissait, il ne lui demandait rien de plus. Et elle ne lui demandait rien de plus. Il l'aimait et la trompait. Elle s'en accommodait pourvu qu'elle eût sa part. Peut-être même y trouvait-elle un certain plaisir. Elle était calme et sensuelle. Une mentalité de femme de harem. Ils avaient deux jolis enfants de 4 à 5 ans, dont elle s'occupait, en bonne mère de famille, avec la même application aimable et froide qu'elle apportait à suivre la politique de son mari et les dernières manifestations de la mode et de l'art. Et cela faisait, dans ce milieu, le plus singulier mélange de théories avancées, d'art ultra-décadent, d'agitation mondaine et de sentiments bourgeois. Ils invitèrent Christophe à venir les voir. Madame Roussin était bonne musicienne, jouait du piano d'une façon charmante. Elle avait un toucher délicat et ferme, avec sa petite tête qui regardait fixement les touches, et ses mains perchées dessus qui sautillaient, elle avait l'air d'une poule qui donne des coups de bec. Bien douée et plus instruite en musique que la plupart des Françaises, elle était d'ailleurs indifférente comme une carpe au sens profond de la musique. C'était pour elle une suite de notes, de rythmes et de nuances qu'elle écoutait ou récitait avec exactitude. Elle n'y cherchait point d'âme, n'en ayant pas besoin pour elle-même. Cette aimable femme, intelligente, simple, toujours disposée à rendre service, dispensa à Christophe la bonne grâce accueillante qu'elle avait pour tous. Christophe lui en savait peu de gré. Il n'avait pas beaucoup de sympathie pour elle, il la trouvait inexistante. Peut-être ne lui pardonnait-il pas non plus, sans s'en rendre compte, la complaisance qu'elle mettait à accepter le partage avec les maîtresses de son mari, dont elle n'ignorait pas les aventures. La passivité était, de tous les vices, celui qui l'excusait le moins. Il se lia plus intimement avec Achille Roussin. Roussin aimait la musique, comme les autres arts, d'une façon grossière mais sincère. Quand il aimait une symphonie, il avait l'air de coucher avec. Il avait une culture superficielle, et il en tirait bon parti. Sa femme ne lui avait pas été inutile en cela. Il s'intéressa à Christophe parce qu'il voyait en lui un plébéien vigoureux, comme il était lui-même. Il était d'ailleurs curieux d'observer de près un original de ce genre. Il était d'une curiosité inlassable pour observer les hommes, et de connaître ses impressions sur Paris. La franchise et la rudesse des remarques de Christophe l'amusa. Il était assez sceptique pour en admettre l'exactitude. Que Christophe fût allemand n'était pas pour le gêner, au contraire. Il se vantait d'être au-dessus des préjugés de patrie. Et en somme, il était sincèrement humain, sa principale qualité. Il sympathisait avec tout ce qui était homme. Mais cela ne l'empêchait point d'avoir la conviction bien assurée de la supériorité du français, vieille race, vieille civilisation, sur l'allemand, et de se gausser de l'allemand. Christophe voyait chez Achille Roussin d'autres hommes politiques, ministres de la veille ou du lendemain. Avec chacun d'eux, individuellement, il aurait eu assez de plaisir à causer si ces illustres personnages l'en avaient jugé digne. Au contraire de l'opinion généralement répandue, il trouvait leur société plus intéressante que celle des littérateurs qu'il connaissait. Ils avaient une intelligence plus vivante, plus ouverte aux passions et aux grands intérêts de l'humanité. Causeurs brillants, méridionaux pour la plupart, ils étaient étonnamment dilettantes. Pris à part, ils l'étaient presque autant que les hommes de lettres. Bien entendu, ils étaient assez ignorants de l'art, surtout de l'art étranger. Mais ils prétendaient tous plus ou moins s'y connaître, et souvent ils l'aimaient vraiment. Il y avait des conseils des ministres qui ressemblaient à des cénacles de petites revues. L'un faisait des pièces de théâtre, l'autre raclait du violon et était wagnerien enragé. L'autre gâchait de la peinture. Et tous collectionnaient les tableaux impressionnistes, lisaient les livres décadents, mettaient une coquetterie à goûter un art ultra-aristocratique qui était l'ennemi mortel de leurs idées. Christophe était gêné de voir ses ministres socialistes ou radicaux socialistes, ses apôtres des classes affamées, faire les connaisseurs en jouissance raffinée. Sans doute c'était leur droit, mais cela ne lui semblait pas très loyal. Mais le plus curieux, c'était quand ces hommes, qui pris en particulier étaient sceptiques, sensualistes, nihilistes, anarchistes, touchaient à l'action. Aussitôt ils devenaient fanatiques. Les plus dilettantes, à peine arrivées au pouvoir, se muaient en petits despotes orientaux. Ils étaient pris de la manie de tout diriger, de ne rien laisser libre. Ils avaient l'esprit sceptique et le tempérament tyrannique. La tentation était trop forte de pouvoir user du formidable mécanisme de centralisation administrative qu'avait jadis construit le plus grand des despotes, et de n'en pas abuser. Il s'ensuivait une sorte d'impérialisme républicain sur lequel était venu se greffer dans les dernières années un catholicisme athée. Pendant un certain temps, les politiciens n'avaient prétendu qu'à la domination des corps, je veux dire des fortunes. Ils laissaient les âmes à peu près tranquilles, les âmes n'étant pas monnayables. De leur côté, les âmes ne s'occupaient pas de politique. Elles passaient au-dessus ou au-dessous d'elles. La politique en France était considérée comme une branche, lucrative mais suspecte, du commerce et de l'industrie. Les intellectuels méprisaient les politiciens, les politiciens méprisaient les intellectuels. Or, depuis peu, un rapprochement s'était fait, puis bientôt une alliance, entre les politiciens et la classe pire des intellectuels. Un nouveau pouvoir était entré en scène qui s'était arrogé le gouvernement absolu des pensées. C'étaient les libres penseurs. Ils avaient lié parti avec l'autre pouvoir qui avait vu en eux un rouage perfectionné de despotisme politique. Ils tendaient beaucoup moins à détruire l'Église qu'à la remplacer. Et de fait, ils formaient une Église de la libre pensée qui avait ses catéchismes et ses cérémonies, ses baptêmes, première communion, ses mariages, ses conciles régionaux, nationaux, voire même écuméniques à Rome. Inénarrable bouffonnerie que ces milliers de pauvres bêtes qui avaient besoin de se réunir en troupeau pour penser librement. Il est vrai que leur liberté de penser consistait à interdire celle des autres au nom de la raison, car ils croyaient à la raison comme les catholiques à la Sainte Vierge, sans se douter les uns et les autres que la raison, pas plus que la Vierge, n'est rien par elle-même, et que la source est ailleurs. Et de même que l'Église catholique avait ses armées de moines et ses congrégations, qui sourdement cheminaient dans les veines de la nation, propageaient son virus et anéantissaient toute vitalité rivale, l'Église anticatholique avait ses francs-maçons, dont la maison mère, le Grand Orient, tenait registre fidèle de tous les rapports secrets que lui adressaient chaque jour, de tous les points de France, ses pieux délateurs. L'État républicain encourageait sous main les espionnages sacrés de ces moines mendiants et de ces jésuites de la raison, qui terrorisaient l'armée, l'université, tous les corps de l'État. Et ils ne s'apercevaient point qu'en semblant le servir, ils visaient peu à peu à se substituer à lui, et qu'ils s'acheminaient tout doucement à une théocratie athée qui n'aurait rien à envier à celle des jésuites du Paraguay. Christophe vit chez Roussin quelques-uns de ses calotins. Ils étaient plus fétichistes les uns que les autres. Pour le moment, ils exultaient d'avoir fait enlever le Christ des tribunaux. Ils croyaient avoir détruit la religion parce qu'ils détruisaient quelques morceaux de bois. D'autres accaparaient Jeanne d'Arc et sa bannière de la Vierge qu'ils venaient d'arracher aux catholiques. Un des pères de l'Église nouvelle, un général qui faisait la guerre aux Français de l'autre Église, venait de prononcer un discours anticlérical en l'honneur de Vercingétorix. Il célébrait dans le Brenne gaulois, à qui la libre pensée avait élevé une statue, un enfant du peuple et le premier champion de la France contre Rome, l'Église II. Un ministre de la Marine, pour purifier la flotte et faire enrager les catholiques, donnait à un cuirassé le nom d'Ernest Renan. D'autres libres esprits s'attachaient à purifier l'art. Ils expurgeaient les classiques du XVIIe siècle et ne permettaient pas que le nom de Dieu souillât les fables de La Fontaine. Ils ne l'admettaient pas plus dans la musique ancienne. Et Christophe entendit un vieux radical. Être radical dans sa vieillesse, dit Goethe, c'est le comble de toute folie, qui s'indignait qu'on osa donner dans un concert populaire les Lieder religieux de Beethoven. Il exigeait qu'on changeât les paroles. D'autres, plus radicaux encore, voulaient qu'on supprimât purement et simplement toute musique religieuse et les écoles où on l'apprenait. Vainement, un directeur des Beaux-Arts, qui dans cette béotie passait pour un Athénien, expliquait qu'il fallait pourtant apprendre la musique aux musiciens. Car, disait-il, quand vous envoyez un soldat à la caserne, vous lui apprenez progressivement à se servir de son fusil et à tirer. Il en est de même du jeune compositeur. La tête fourmille d'idées, mais leur classement n'est pas encore opéré. Effrayé de son courage, protestant à chaque phrase, « Je suis un vieux libre penseur, je suis un vieux républicain », il proclamait audacieusement que peu lui importait de savoir si les compositions de Pergolèse étaient des opéras ou des messes. Il s'agissait de savoir si c'était des œuvres de l'art humain. Mais l'implacable logique de son interlocuteur répliquait au vieux libre-penseur, au vieux républicain, qu'il y avait deux musiques, celle qu'on chantait dans les églises et celle qu'on chantait ailleurs. La première était ennemie de la raison et de l'État, et la raison d'État devait la supprimer. Ces imbéciles eussent été plus ridicules que dangereux s'ils n'avaient eu derrière eux des hommes d'une réelle valeur, sur qui ils s'appuyaient et qui étaient comme eux, davantage peut-être, fanatiques de la raison. Tolstoï parle quelque part de ces influences épidémiques qui règnent en religion, en philosophie, en politique, en art et en science, de ces influences insensées dont les hommes ne voient la folie que lorsqu'ils s'en sont débarrassés, mais qui, tant qu'ils y sont soumis, leur paraissent si vraies qu'ils ne croient même pas nécessaire de les discuter. Ainsi, la passion des tulipes, la croyance aux sorciers, les aberrations des modes littéraires. La religion de la raison était une de ces folies. Elle était commune aux plus sots et aux plus cultivés, aux sous-vétérinaires de la chambre et à certains des esprits les plus intelligents de l'université. Elle était plus dangereuse encore chez ceux-ci que chez ceux-là, car chez ceux-là, elle s'accommodait d'un optimisme béat et stupide qui en détendait l'énergie. Au lieu que chez les autres, le ressort en était bandé et le tranchant aiguisé par un pessimisme fanatique qui ne se faisait point illusion sur l'antagonisme foncier de la nature et de la raison, et qui n'en était que plus acharné à soutenir le combat de la liberté abstraite, de la justice abstraite, de la vérité abstraite, contre la nature mauvaise. Il y avait là un fond d'idéalisme calviniste, janséniste, jacobin, une vieille croyance en l'irrémédiable perversité de l'homme, que seul peut et doit briser l'orgueil implacable des élus chez qui souffle la raison, l'Esprit de Dieu. C'était un type bien français, le français intelligent qui n'est pas humain. Un caillou dur comme fer. Rien n'y peut pénétrer, et il casse tout ce qu'il touche. Christophe fut atterré par la conversation qu'il eut chez Achille Roussin avec quelques-uns de ses fous raisonneurs. Ses idées sur la France en étaient bouleversées. Il croyait, d'après l'opinion courante, que les Français étaient un peuple pondéré, sociable, tolérant, aimant la liberté. Et il trouvait des maniaques d'idées abstraites, malades de logique, toujours prêt à sacrifier les autres à un de leurs syllogismes. Il parlait constamment de liberté, et personne n'était moins fait pour la comprendre et pour la supporter. Nulle part des caractères plus froidement, plus atrocement despotiques, par passion intellectuelle, ou parce qu'il voulait toujours avoir raison. Ce n'était pas le fait d'un parti, tous les partis étaient le même. Ils ne voulaient rien voir en deçà, au-delà de leur formulaire politique ou religieux, de leur patrie, de leur province, de leur groupe, de leur étroit cerveau. Il y avait des antisémites qui dépensaient toutes les forces de leur être en une haine enragée contre tous les privilégiés de la fortune, car ils haïssaient tous les juifs, et ils appelaient juifs tous ceux qu'ils haïssaient. Il y avait des nationalistes qui haïssaient, quand ils étaient très bons, ils se contentaient de mépriser, toutes les autres nations, et, dans leur nation même, appelaient étrangers ou renégats ou traîtres ceux qui ne pensaient pas comme eux. Il y avait des anti-protestants qui se persuadaient que tous les protestants étaient anglais ou allemands, et qui eussent voulu les bannir tous de France. Il y avait les gens de l'Occident qui ne voulaient rien admettre à l'est de la ligne du Rhin, et les gens du Nord qui ne voulaient rien admettre au sud de la ligne de la Loire, et ceux qui se faisaient gloire d'être de race germanique, et ceux qui se faisaient gloire d'être de race gauloise. Et les plus fous de tous, les Romains, qui s'enorgueillissaient de la défaite de leur père, et les Bretons, et les Lorrains, et les Félibres, et les Albigeois, et ceux de Carpentras, de Pontoise et de Quimper-Corentin, chacun n'admettant que soi, se faisant de son soi un titre de noblesse, et ne tolérant pas qu'on pût être autrement. Rien à faire contre cette engeance. Ils n'écoutent aucun raisonnement. Ils sont faits pour brûler le reste du monde ou pour être brûlés. Christophe pensait qu'il était heureux qu'un tel peuple fût en république, car tous ces petits despotes s'annihilaient mutuellement. Mais si l'un d'eux avait été roi, il ne fut plus resté assez d'air pour aucun autre. Il ne savait pas que les peuples raisonneurs ont une vertu qui les sauve, l'inconséquence. Les politiciens français ne s'en faisaient pas faute. Leur despotisme se tempérait d'anarchisme. Ils oscillaient sans cesse de l'un à l'autre pôle. S'ils s'appuyaient à gauche sur les fanatiques de la pensée, à droite ils s'appuyaient sur les anarchistes de la pensée. On voyait avec eux toute une tourbe de socialistes dilettantes, de petits arrivistes, qui s'étaient bien gardés de prendre part au combat avant qu'il fût gagné, mais qui suivaient à la trace l'armée de la libre pensée, et, après chacune de ses victoires, s'abattaient sur les dépouilles des vaincus. Ce n'était pas pour la raison que travaillaient les champions de la raison, sic vos non vobis. C'était pour ces profiteurs cosmopolites qui piétinaient joyeusement les traditions du pays et qui n'entendaient pas détruire une fois pour en installer une autre à la place, mais pour s'installer eux-mêmes. Christophe retrouva là Lucien Lévicœur. Il ne fut pas trop étonné d'apprendre que Lucien Lévicœur était socialiste. Il pensa simplement qu'il fallait que le socialisme fût bien sûr du succès pour que Lucien Lévicœur vînt à lui. Mais il ne savait pas que Lucien Lévicœur avait trouvé moyen d'être tout aussi bien vu dans le camp opposé, où il avait réussi à devenir l'ami des personnalités de la politique et de l'art les plus antilibérales, voire même antisémites. Il demanda à Achille Roussin « Comment pouvez-vous garder de telles âmes avec vous ?» Roussin répondit « Il a tant de talent, et puis il travaille pour nous, il détruit le vieux monde. » « Je vois bien qu'il détruit, » dit Christophe. « Il détruit si bien que je ne sais pas avec quoi vous reconstruirez. Êtes-vous sûr qu'il vous restera assez de charpente pour votre maison nouvelle ? Les vers se sont déjà mis dans votre chantier de construction. » Lucien Lévicœur n'était pas le seul à ronger le socialisme. Les feuilles socialistes étaient pleines de ces petits âmes de lettres, art pour l'art, anarchistes de luxe, qui s'étaient emparés de toutes les avenues qui pouvaient conduire au succès. Ils barraient la route aux autres et remplissaient de leur dilettantisme décadent et « struggle for life » les journaux qui se disaient organes du peuple. Ils ne se contentaient pas des places, il leur fallait la gloire. Dans aucun temps, on n'avait vu tant de statues hâtivement élevées, tant de discours devant des génies de plâtre. Périodiquement, des banquets étaient offerts aux grands hommes de la confrérie par les habituelles picassiettes de la gloire, non pas à l'occasion de leurs travaux, mais de leur décoration, car c'était là ce qui les touchait le plus. Esthètes, surhommes, métèques, ministres socialistes, se trouvaient tous d'accord pour fêter une promotion dans la Légion d'honneur, instituée par cet officier corse. Roussin s'égayait des étonnements de Christophe. Il ne trouvait point que l'Allemand jugeât si mal ses partenaires. Lui-même, quand ils étaient seuls à seuls, les traitait sans ménagement. Il connaissait mieux que personne leur sottise ou leur rouerie. Mais cela ne l'empêchait pas de les soutenir afin d'être soutenu par eux. Et si, dans l'intimité, il ne se gênait pas pour parler du peuple en termes méprisants, à la tribune, il était un autre homme. Il prenait une voix de tête, des tons aigus, nasillards, martelés, solennels, des trémolos, des bêlements, de grands gestes vastes et tremblotants, comme des battements d'ailes. Il jouait Mounet-Sully. Christophe s'évertuait à démêler dans quelle mesure Roussin croyait à son socialisme. L'évidence était qu'il n'y croyait pas, au fond. Il était trop sceptique. Il y croyait pourtant, avec une part de sa pensée. Et quoiqu'il sût fort bien que ce n'en était qu'une part, et pas la plus importante, il avait organisé d'après cela sa vie et sa conduite, parce que cela lui était plus commode ainsi. Son intérêt pratique n'était pas seul en cause, mais aussi son intérêt vital, sa raison d'être et d'agir. Sa foi socialiste lui était pour lui-même une sorte de religion d'État. La majorité des hommes ne vit pas autrement. Leur vie repose sur des croyances religieuses, ou morales, ou sociales, ou purement pratiques. Croyances à leur métier, à leur travail, à l'utilité de leur rôle dans la vie, auquel ils ne croient pas au fond. Mais ils ne veulent pas le savoir, car ils ont besoin pour vivre de ce semblant de foi, de ce culte officiel dont chacun est le prêtre. Roussin n'était pas un des pires. Combien d'autres dans le parti faisaient du socialisme ou du radicalisme, on ne pouvait même pas dire, par ambition, tant cette ambition était à courte vue, n'allait pas plus loin que le pillage immédiat et leur réélection. Ces gens avaient l'air de croire en une société nouvelle. Peut-être y avaient-ils cru jadis. Mais en fait, ils ne pensaient plus qu'à vivre sur les dépouilles de la société qui mourait. Un opportunisme myope était au service d'un nihilisme jouisseur. Les grands intérêts de l'avenir étaient sacrifiés à l'égoïsme de l'heure présente. On démembrait l'armée, on eût démembré la patrie pour plaire aux électeurs. Ce n'était point l'intelligence qui manquait. On se rendait compte de ce qu'il eût fallu faire, mais on ne le faisait point parce qu'il en eût coûté trop d'efforts. On voulait arranger sa vie et celle de la nation avec le minimum de peine. Du haut en bas de l'échelle, c'était la même morale du plus de plaisir possible avec le moins d'efforts possible. Cette morale immorale était le seul fil conducteur au milieu du gâchis politique où les chefs donnaient l'exemple de l'anarchie, où l'on voyait une politique incohérente poursuivant 10 lièvres à la fois et les lâchant tous l'un après l'autre. Une diplomatie belliqueuse côte à côte avec un ministère de la guerre pacifiste, des ministres de la guerre qui détruisaient l'armée afin de l'épurer, des ministres de la marine qui soulevaient les ouvriers des arsenaux, des instructeurs de la guerre qui prêchaient l'horreur de la guerre, des officiers dilettantes, des juges dilettantes, des révolutions dilettantes, des patriotes dilettantes. Une démoralisation politique universelle. Chacun attendait de l'État qu'il le pourvût de fonctions, de pensions, de décorations. Et l'État, en effet, ne manquait pas d'en arroser sa clientèle. La curée des honneurs et des charges était offerte aux fils, aux neveux, aux petits-neveux, aux valets du pouvoir. Les députés se votaient des augmentations de traitement, un gaspillage effréné des finances, des places, des titres, de toutes les ressources de l'État. Et comme un sinistre écho de l'exemple d'en haut, le sabotage d'en bas. Les instituteurs enseignant la révolte contre la patrie, les employés des postes brûlant les lettres et les dépêches, les ouvriers des usines jetant du sable et de l'émerie dans les engrenages des machines, les ouvriers des arsenaux détruisant des arsenaux, des navires incendiés, le gâchage monstrueux du travail par les travailleurs, la destruction non pas des riches, mais de la richesse du monde. Pour couronner l'œuvre, une élite intellectuelle s'amusait à fonder en raison et en droit ce suicide d'un peuple au nom des droits sacrés au bonheur. un humanitarisme morbide, rongeait la distinction du bien et du mal, s'apitoyait devant la personne irresponsable et sacrée des criminels, capitulait devant le crime et lui livrait la société. Christophe pensait. La France est saoule de liberté. Après avoir déliré, elle tombera ivre-morte, et quand elle se réveillera, elle sera au violon. Ce qui blessait le plus Christophe dans cette démagogie, c'était de voir les pires violences politiques froidement accomplies par des hommes dont il connaissait le fond incertain. La disproportion était trop scandaleuse entre ces êtres ondoyants et l'action âpre qu'ils déchaînaient ou qu'ils autorisaient. Il semblait qu'il y eût en eux deux éléments contradictoires, un caractère inconsistant qui ne croyait à rien et une raison résonnante qui saccageait la vie sans vouloir rien écouter. Christophe se demandait comment la bourgeoisie paisible, les catholiques, les officiers qu'on harcelait de toutes les façons, ne les jetaient pas par la fenêtre. Comme il ne savait rien cacher, Roussin n'eut pas de peine à deviner sa pensée. Il se mit à rire et dit « Sans doute, c'est ce que vous ou moi nous ferions, n'est-ce pas? Mais il n'y a point de risque avec eux. Ce sont de pauvres bougres qui ne sont pas capables de prendre le moindre parti énergique. Ils ne sont bons qu'à récriminer. Une aristocratie gâteuse, abrutie par les clubs, prostituée aux Américains et aux Juifs, qui, pour prouver son modernisme, s'amuse du rôle insultant qu'on lui prête dans les romans et les pièces à la mode, et fait fête aux insulteurs. Une bourgeoisie grincheuse, qui ne lit rien, qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre, qui ne sait que dénigrer, dénigrer à vide, aigrement, sans résultat pratique, qui n'a qu'une passion, dormir sur son sac aux gros sous avec la haine de ceux qui la dérangent, ou même de ceux qui travaillent, car cela la dérange que les autres se remuent, tandis qu'elle pionce. Si vous connaissiez ces gens-là, vous finiriez par nous trouver sympathiques. » Mais Christophe n'éprouvait qu'un grand dégoût pour les uns et pour les autres, car il ne pensait point que la bassesse des persécutés fût une excuse pour celle des persécuteurs. Il avait souvent rencontré chez les Stevens des types de cette bourgeoisie riche et maussade que lui dépeignait Roussin. L'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Il ne voyait que trop les raisons que Roussin et ses amis avaient d'être sûrs non seulement de leur force sur ces gens, mais de leur droit d'en abuser. Les outils de domination ne leur manquaient point. Des milliers de fonctionnaires sans volonté, obéissant aveuglément. Des mœurs courtisanesques, une république sans républicains, une presse socialiste en extase devant les rois en visite, des âmes de domestiques aplaties devant les titres, les galons, les décorations. Pour les tenir, il n'y avait qu'à leur jeter en pâture un os à ronger ou la Légion d'honneur. Si un roi eût promis d'anoblir tous les citoyens de France, tous les citoyens de France eussent été royalistes. Les politiciens avaient beau jeu. Des trois États de 89, le premier était anéanti, le second était banni ou suspect. Le troisième, repu de sa victoire, dormait. Et quant au quatrième état, qui maintenant se levait, menaçant et jaloux, il n'était pas difficile encore d'en avoir raison. La République décadente le traitait comme Rome décadente traitait les hordes barbares, qu'elle n'avait plus la force d'expulser de ses frontières. Elle les enrôlait. Ils devenaient bientôt ses meilleurs chiens de garde. Les ministres bourgeois, qui se disaient socialistes, attiraient sournoisement, annexaient les plus intelligents de l'élite ouvrière. Ils décapitaient de leur chef le parti des prolétaires, s'infusaient leur sang nouveau, et en retour les gorgeaient d'idéologie bourgeoise. Un spécimen curieux de ces tentatives d'annexion du peuple par la bourgeoisie était en ce temps-là les universités populaires. C'était de petits bazars de connaissances confuses, des omni re scibili, de toutes les choses qu'on peut savoir. On prétendait y enseigner, comme disait un programme, toutes les branches du savoir, physique, biologique, sociologique, astronomie, cosmologie, anthropologie, ethnologie, physiologie, psychologie, psychiatrie, géographie, linguistique, esthétique, logique, etc. De quoi faire craquer le cerveau de Pic de la Mirandole. Certes, il y avait eu à l'origine, il y avait encore dans certaines d'entre elles, un idéalisme sincère, un besoin de dispenser à tous la vérité, la beauté, la vie morale, qui avait de la grandeur. Ces ouvriers, qui, après une journée de dur travail, venaient s'entasser dans les salles de conférence étouffantes, et dont la soif de savoir était plus forte que la fatigue, offraient un spectacle touchant. Mais comme on avait abusé des pauvres gens. Pour quelques vrais apôtres, intelligents et humains, pour quelques bons cœurs, mieux intentionnés qu'adroits, combien de sots, de bavards, d'intrigants, écrivains sans lecteurs, orateurs sans public, professeurs, pasteurs, parleurs, pianistes et critiques, qui inondaient le peuple de leurs produits. Chacun cherchait à placer sa marchandise. Les plus achalandés étaient naturellement les vendeurs d'orves et temps, les discoureurs philosophiques qui remuaient à l'appel des idées générales avec le paradis social au bout. Les universités populaires servaient aussi de débouché pour un esthétisme ultra-aristocratique, gravure, poésie, musique décadente. On voulait l'avènement du peuple pour rajeunir la pensée et pour régénérer la race. Et l'on commençait par lui inoculer tous les raffinements de la bourgeoisie. Il les prenait avec avidité, non parce qu'ils lui plaisaient, mais parce qu'ils étaient bourgeois. Christophe, qui avait été amené à une de ces universités populaires par Madame Roussin, lui entendit jouer du Debussy au peuple, entre la bonne chanson de Gabriel Fauré et l'un des derniers quatuors de Beethoven. Lui qui n'était arrivé à l'intelligence des dernières œuvres de Beethoven qu'après bien des années, par un lent cheminement de son goût et de sa pensée, demanda, plein de pitié, à l'un de ses voisins, « Mais est-ce que vous comprenez cela ?» L'autre se dressa sur ses argots comme un coq en colère et dit, « Bien sûr, pourquoi est-ce que je ne comprendrais pas aussi bien que vous ?» Et pour prouver qu'il avait compris, il bissa une fugue en regardant Christophe d'un air provoquant. Christophe se sauva consterné. Il se disait que ces animaux-là avaient réussi à empoisonner jusqu'aux sources vives de la nation. Il n'y avait plus de peuple. « Peuple vous-même, comme disait un ouvrier à l'un de ces braves gens qui tentait de fonder des théâtres du peuple. Je suis autant bourgeois que vous. » Un beau soir, que le ciel moelleux comme un tapis d'Orient, aux teintes chaudes, un peu passées, s'étendait au-dessus de la ville assombrie, Christophe suivait les quais de Notre-Dame aux Invalides. Dans la nuit qui tombait, les tours de la cathédrale montaient comme les bras de Moïse dressés pendant la bataille. La lance d'or ciselée de la Sainte-Chapelle, l'épine sainte fleurissante, jaillissait du fourré des maisons. De l'autre côté de l'eau, le Louvre déroulait sa façade royale, dans les yeux ennuyés de laquelle les reflets du soleil couchant mettaient une dernière lueur de vie. Au fond de la plaine des Invalides, derrière ses fossés et ses murailles hautaines, dans son désert majestueux, la coupole d'or sombre planait comme une symphonie de victoire lointaine. Et l'arc de triomphe ouvrait sur la colline, telle une marche héroïque, l'enjambée surhumaine des légions impériales. Et Christophe eut soudain l'impression d'un géant mort, dont les membres immenses couvraient la plaine. Le cœur serré d'effroi, il s'arrêta, contemplant les fossiles gigantesques d'une espèce fabuleuse, disparue de la terre et dont toute la terre avait entendu sonner les pas. La race, casqué du dôme des Invalides et ceinturé du Louvre, qui étreignait le ciel avec les mille bras de ses cathédrales et qui arc-boutait sur le monde les deux pieds triomphants de l'arche napoléonienne sous le talon de laquelle grouillait aujourd'hui Lilliput. Sans qu'il l'eût cherché, Christophe avait acquis une petite notoriété dans les milieux parisiens où Sylvain Cohn et Goujard l'avaient introduit. L'originalité de sa figure, qu'on apercevait toujours avec l'un ou l'autre de ses deux amis, aux premières des théâtres et aux concerts, sa laideur puissante, les ridicules mêmes de sa personne, de sa tenue, de ses manières brusques et gauches, les boutades paradoxales qui parfois lui échappaient, son intelligence mal dégrossie, mais large et robuste, et les récits romanesques que Sylvain Cohn avait colportés sur ses escapades en Allemagne, sur ses démêlés avec la police et sur sa fuite en France, l'avait désigné à la curiosité oisive et affairée de ce grand salon d'hôtel cosmopolite qu'est devenu le tout Paris. Tant qu'il se tint sur la réserve, observant, écoutant, tâchant de comprendre avant de se prononcer, tant qu'on ignora ses œuvres et le fond de sa pensée, il fut assez bien vu. Les Français lui savaient gré de n'avoir pu rester en Allemagne. Surtout, les musiciens français étaient touchés comme d'un hommage qui leur était rendu de l'injustice des jugements de Christophe sur la musique allemande. Il s'agissait à la vérité de jugements déjà anciens, à la plupart desquels il n'eût plus souscrit aujourd'hui. Quelques articles publiés naguère dans une revue allemande et dont les paradoxes avaient été répandus et amplifiés par Sylvain Cohn. Christophe intéressait et il ne gênait point. Il ne prenait la place de personne. Il n'eût tenu qu'à lui d'être un grand homme de cénacle. Il n'avait qu'à ne rien écrire, ou le moins possible, surtout à ne rien faire entendre de lui, et à alimenter d'idées Goujard et ses pareils, tous ceux qui ont pris pour devise un mot fameux, en l'arrangeant un peu, « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans celui des autres. » Une forte personnalité exerce son rayonnement surtout sur les jeunes gens, plus occupés de sentir que d'agir. Il n'en manquait pas autour de Christophe. C'était en général de ces êtres oisifs, sans volonté, sans but, sans raison d'être, qui ont peur de la table de travail, peur de se trouver seuls avec eux-mêmes, qui s'éternisent dans un fauteuil, qui errent d'un café à une salle de théâtre, cherchant tous les prétextes pour ne pas rentrer chez eux, pour ne pas se voir face à face. Il venait, s'installait, traînait pendant des heures, dans ces conversations insipides, d'où l'on sort avec une dilatation d'estomac, écœuré, saturé, et pourtant affamé, avec le besoin et le dégoût à la fois de continuer. Ils entouraient Christophe, comme le barbet de Goethe, les larves à l'affût qui guettent une âme happée pour se raccrocher à la vie. Un sot vaniteux eût trouvé plaisir à cette cour de parasites. Mais Christophe n'aimait pas jouer à l'idole. Il était horripilé d'ailleurs par la prétentieuse bêtise de ses admirateurs, qui trouvaient dans ce qu'il faisait des intentions saugrenues, renaniennes, nietzschéennes, rose-croix, hermaphrodites. Il les mit à la porte. Il n'était pas fait pour un rôle passif. Tout chez lui avait l'action pour but. Il observait pour comprendre, et il voulait comprendre pour agir. Libre de préjugés, il s'informait de tout, étudiait dans la musique toutes les formes de pensée et les ressources d'expression des autres pays et des autres temps. Chacune de celles qui lui paraissaient vraies, il en faisait sa proie. À la différence de ces artistes français qu'il étudiait, ingénieux inventeurs de formes nouvelles, qui s'épuisent à inventer sans cesse et laissent leurs inventions en chemin, il cherchait beaucoup moins à innover dans la langue musicale qu'à la parler avec plus d'énergie. Il n'avait point le souci d'être rare, mais celui d'être fort. Cette énergie passionnée s'opposait au génie français de finesse et de mesure. Il avait le dédain du style pour le style. Les meilleurs artistes français lui faisaient l'effet d'ouvrier de luxe. Un des plus parfaits poètes parisiens s'était amusé lui-même à dresser la liste ouvrière de la poésie française contemporaine, chacun avec sa denrée, son produit ou ses soldes. Et il énumérait les lustres de cristal, les étoffes d'Orient, les médailles d'or et de bronze, les guipures douairières, les sculptures polychromes, les faïences à fleurs, qui sortaient de la fabrique de tel ou tel de ses confrères. Lui-même se représentait dans un coin du vaste atelier des lettres, reprisant de vieilles tapisseries ou dérouillant des pertuisanes hors d'usage. Cette conception de l'artiste, comme d'un bon ouvrier, attentif uniquement à la perfection du métier, n'était pas sans beauté, mais elle ne satisfaisait pas Christophe. Tout en reconnaissant sa dignité professionnelle, il avait du mépris pour la pauvreté de vie qu'elle recouvrait. Il ne concevait pas qu'on écrivît pour écrire. Il ne disait pas des mots, il disait, il voulait dire, des choses. « Ehi dice cose, e voi dite parole. » Après une période de repos où il n'avait été occupé qu'à absorber un monde nouveau, l'esprit de Christophe fut pris brusquement du besoin de créer. L'antagonisme qui s'accusait entre Paris et lui centuplait sa force, en stimulant sa personnalité. C'était un débordement de passion qui demandait impérieusement à s'exprimer. Elles étaient de toutes sortes. Par toutes, il était sollicité avec la même ardeur. Il lui fallait forger des œuvres ou se décharger de l'amour qui lui gonflait le cœur et aussi de la haine et de la volonté et aussi du renoncement et de tous les démons qui s'entrechoquaient en lui et qui avaient un droit égal à vivre. À peine s'était-il soulagé d'une passion dans une œuvre, quelquefois il n'avait même pas la patience d'aller jusqu'à la fin de l'œuvre, qu'il se jetait dans une passion contraire. Mais la contradiction n'était qu'apparente. S'il changeait toujours, toujours il restait le même. Toutes ses œuvres étaient des chemins différents qui menaient au même but. Son âme était une montagne, il en prenait toutes les routes. Les unes s'attardaient à l'ombre, en leurs détours moelleux, les autres montaient, arides, âprement au soleil, toutes conduisaient au Dieu qui siégeait sur la cime. Amour, haine, volonté, renoncement, toutes les forces humaines, portées au paroxysme, touchent à l'éternité, déjà y participent. Chacun la porte en soi, le religieux et l'athée, celui qui voit partout la vie et celui qui la nie partout, et celui qui doute de tout et de la vie et de la négation. Et Christophe, dont l'âme embrassait tous ses contraires à la fois. Tous les contraires se fondent dans l'éternelle force. L'important pour Christophe était de réveiller cette force en lui et dans les autres, de jeter des brassées de bois sur le brasier, de faire flamber l'éternité. Une grande flamme s'était levée dans son cœur au milieu de la nuit voluptueuse de Paris. Il se croyait libre de toute foi et il n'était tout entier qu'une torche de foi. Rien ne pouvait davantage prêter le flanc à l'ironie française. La foi est un des sentiments que pardonne le moins une société raffinée, car elle l'a perdue. Dans l'hostilité sourde ou railleuse de la plupart des hommes pour les rêves des jeunes gens, il entre pour beaucoup l'amère pensée qu'eux-mêmes furent ainsi, qu'ils eurent ces ambitions et ne les réalisèrent point. Ceux qui ont renié leur âme, ceux qui avaient en eux une œuvre et ne l'ont pas accomplie, pensent « Puisque je n'ai pas pu faire ce que j'avais rêvé, pourquoi le feraient-ils eux? Je ne veux point qu'ils le fassent. » Combien d'aidas gablèrent parmi les hommes! Quelle sourde malveillance qui cherche à annihiler les forces neuves et libres, quelle science pour les tuer par le silence, par l'ironie, par l'usure, par le découragement, et par quelque séduction perfide au bon moment. Le type est de tous les pays. Christophe le connaissait pour l'avoir rencontré en Allemagne. Contre cette espèce de gens, il était cuirassé. Son système de défense était simple. Il attaquait le premier. Dès leurs premières avances, il leur déclarait la guerre. Il contraignait ses dangereux amis à se faire ses ennemis. Mais si cette franche politique était la plus efficace à sauvegarder sa personnalité, elle l'était beaucoup moins à lui faciliter sa carrière d'artiste. Christophe recommença ses errements d'Allemagne. C'était plus fort que lui. Une seule chose avait changé, son humeur, qui était fort gaie. Il exprimait gaillardement à qui voulait l'entendre ses critiques peu mesurées sur les artistes français. Il s'attira ainsi beaucoup d'inimitié. Il ne prenait même pas la précaution de se ménager, comme font les gens avisés, l'appui d'une petite coterie. Il n'eut pas eu peine à trouver des artistes tout prêts à l'admirer, pourvu qu'il les admirât. Il y en avait même qui l'admiraient d'avance à charge de revanche. Il considérait celui qu'il louait comme un débiteur auquel il pouvait, le moment venu, réclamer le remboursement de leurs créances. C'était de l'argent bien placé. C'était de l'argent mal placé avec Christophe. Il ne remboursait rien. Bien pis, il avait l'effronterie de trouver médiocres les œuvres de ceux qui trouvaient bonnes les siennes. Ils en gardaient, sans le dire, une rancune profonde et se promettaient, à la prochaine occasion, de lui rendre la même monnaie. Entre toutes les maladresses commises, Christophe eut celle de partir en guerre contre Lucien Lévi-Cœur. Il le trouvait partout sur sa route. Et il ne pouvait cacher une antipathie exagérée pour cet être doux, poli, qui ne faisait aucun mal apparent, qui semblait même avoir plus de bonté que lui, et qui en tout cas avait bien plus de mesure. Il le provoquait à des discussions, et si insignifiant qu'en fût l'objet, elle prenait toujours, par le fait de Christophe, une âpreté subite qui étonnait l'auditoire. Il semblait que Christophe cherchât tous les prétextes pour fondre tête baissée sur Lucien Lévi-Cœur. Mais jamais il ne pouvait l'atteindre. Son ennemi avait la suprême habileté, même quand son tort était le plus certain, de se donner le beau rôle. Il se défendait avec une courtoisie qui faisait ressortir le manque d'usage de Christophe. Celui-ci, qui d'ailleurs parlait mal le français, avec des mots d'argot, voire d'assez gros mots, qu'il avait su tout de suite et qu'il employait mal à propos, comme beaucoup d'étrangers, était incapable de déjouer la tactique de Lévi-Cœur. Et il se débattait furieusement contre cette douceur ironique. Tout le monde lui donnait tort, car on ne croyait pas ce que Christophe sentait obscurément. L'hypocrisie de cette douceur, qui, se heurtant à une force qu'elle ne parvenait pas à entamer, travaillait à l'étouffer, sans éclat, en silence. Il n'était pas pressé, étant, comme Christophe, de ceux qui comptaient sur le temps. Mais c'était pour détruire. Christophe, pour édifier. Lévi-Cœur n'eut pas de peine à détacher de Christophe Sylvain Cohn et Goujard, comme il l'avait peu à peu évincé du salon des Stevens. Il fit le vide autour de lui. Christophe s'en chargeait de lui-même. Il ne contentait personne, n'étant d'aucun parti, ou mieux, étant contre tous. Il n'aimait pas les Juifs, mais il aimait encore moins les antisémites. Cette lâcheté des masses soulevée contre une minorité puissante, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est puissante, cet appel au bas instinct de jalousie et de haine lui répugnait. Les Juifs le regardaient comme un antisémite, les antisémites comme un Juif. Quant aux artistes, ils sentaient en lui l'ennemi. Instinctivement, Christophe se faisait, en art, plus allemand qu'il n'était. Par opposition avec la voluptueuse ataraxie de certaines musiques parisiennes, il célébrait la volonté violente, un pessimisme viril et sain. Quand la joie paraissait, c'était avec un manque de goût, une fougue plébéienne, bien fait pour révolter jusqu'aux aristocratiques patrons de l'art populaire. Sa forme était savante et rude. Même, il n'était pas loin d'affecter, par réaction, une négligence apparente dans le style et une insouciance de l'originalité extérieure qui devait être très sensible aux musiciens français. Aussi, ceux d'entre eux à qui il communiqua ses œuvres l'englobèrent-ils, sans y regarder de plus près, dans le mépris qu'ils avaient pour le wagnérisme attardé de l'école allemande. Christophe ne s'en souciait guère. Il riait intérieurement, se répétant ces vers d'un charmant musicien de la Renaissance française, adapté à son usage. « Va, va, ne t'ébahis de ceux-là qui diront, ce Christophe n'a pas d'un tel le contrepoint. Il n'a pas de sestui la pareille harmonie, j'ai quelque chose aussi que les autres n'ont point. » Mais quand il voulut essayer de faire jouer ses œuvres dans les concerts, il trouva porte close. On avait déjà bien assez à faire de jouer ou de ne pas jouer les œuvres des jeunes musiciens français. On n'avait pas de place pour un Allemand inconnu. Christophe ne sentait à point à faire des démarches. Il s'enferma chez lui et se remit à écrire. Peu lui importait que les gens de Paris l'entendissent ou non. Il écrivait pour son plaisir et non pour réussir. Le vrai artiste ne s'occupe pas de l'avenir de son œuvre. Il est comme ces peintres de la Renaissance qui peignaient joyeusement des façades de maisons, sachant que dans 10 ans, il n'en resterait rien. Christophe travaillait donc en paix, attendant des temps meilleurs, quand lui vint un secours inattendu.